Club the Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du Labomatique. Vous êtes bien sur Radio Campus Rennes 88.4 ou sur notre site internet radiocampusrennes.fr. Aujourd'hui, nous irons à la rencontre de Jacques Bouffette, géologue auprès du CNRS et enseignant à l'Université de Rennes 1. Avec lui, nous découvrirons l'histoire de la ville de Rennes racontée par ses pierres. De la naissance du massif armoricain aux constructions de demain, embarquons au fil d'une histoire longue de 600 millions d'années. Nous sommes aujourd'hui à Rennes 1 en compagnie de M. Jacques Bouffette, professeur agrégé auprès du département géosciences de Rennes 1, pour nous parler de la géologie à Rennes dans le cadre de la fête de la science et de sa présentation de la ville de Rennes vue par ses roches. Bonjour M. Jacques Bouffette, pouvez-vous vous présenter brièvement à nos auditeurs ?
Bonjour à tous, je suis donc professeur agrégé détaché donc à l'université Rennes 1 et au département de géosciences. Je travaille essentiellement en tant qu'enseignant à la formation des enseignants, des futurs enseignants, préparation au CAPES et à l'agrégation. Et en termes de recherche, je m'intéresse à la formation des chaînes de montagne et des formations très récentes qui peuvent se produire dans certaines localités, comme par exemple l'Islande. Et puis aussi très dernièrement, suite à l'année internationale de la planète Terre de 2007, nous sommes intéressés sur les roches, les pierres de construction qui constituent les environnements de chacun, en particulier dans les villes.
Est-ce que vous pourriez nous parler plus particulièrement justement des roches de la ville de Rennes ?
Alors, sur la ville de Rennes, nous avons un très très bel exemple de l'utilisation de matériaux de construction suivant le développement d'une ville. Donc il y a une très grosse interpénétration entre la géologie et l'histoire.
Pourriez-vous développer un peu plus le lien entre les matériaux utilisés dans la construction de la ville de Rennes et l'histoire de cette dernière ?
D'une façon très caricaturale, comme dans la plupart des villes, on commence par construire avec les matériaux locaux. Donc les matériaux locaux, ça va être d'abord le bois, ça va être le torchis. C'est des choses que l'on peut voir, par exemple, dans les vieilles maisons de la rue de l'Absalette, derrière la cathédrale. Donc, après, dans un premier temps, pour les constructions civiles, les roches n'interviennent pas beaucoup. Ensuite, elles commencent à intervenir, et donc on va utiliser les roches qui sont vraiment locales, qui constituent le bassin de Rennes. Alors, le bassin de Rennes est constitué de roches qui sont très fines, qui sont très feuilletées, qu'on appelle des schistes, et qui sont très anciennes. Elles datent de à peu près... Enfin, elles sont antérieures à 600 millions d'années, donc c'est extrêmement ancien. Et elles ont un aspect gris-bleuté, tout à fait caractéristique. Alors, ce sont des roches extrêmement feuilletées, très très feuilletées, ce qui fait que c'est des très mauvaises pierres de construction, en fait. On va s'en servir, dans un premier temps, pour... les premières édifications, on va s'en servir par exemple dans les vieilles maisons encore derrière la rue de l'Absalette, en particulier sur les premiers étages, pour les rez-de-chaussée, pardon, excusez-moi, les premiers étages sont essentiellement constitués encore de bois et de torchis. Et puis pour des constructions comme des murailles ou des choses comme ça. Alors, de toute façon, le problème de ces roches, c'est qu'elles résistent assez mal à la pluie. Et donc très très vite, la pluie va utiliser le feuilletage de ces roches, et du coup, la roche va se casser, se fragmenter. Et donc la roche va disparaître. Et donc on va finir par abandonner cette première roche. Ensuite, comme cette roche n'est pas très intéressante, on va commencer à s'éloigner, les voies de communication commençant à devenir de plus en plus utilisables, on va pouvoir aller amener du matériel d'un peu plus loin. Et on va rester dans la structure que les géologues appellent le massif armoricain, qui comprend grosso modo la Bretagne, une grande partie de la Normandie, en redescendant jusqu'à Saint-Nazaire, quoi, en gros. Et là, les matériaux sont des matériaux anciens, autour de 300 millions d'années pour faire extrêmement grossier. Et on va utiliser donc des matériaux qui vont être de meilleure qualité que les petits schistes que nous avions dans le bassin de Rennes et qui étaient très friables. Et on va rencontrer alors la pierre de Rennes, celle qu'on va utiliser très tôt dans l'histoire et que l'on va suivre jusqu'à nos jours. C'est ce schiste que je pense que tous les Rennais connaissent, ce schiste rouge, rouge lit de vin, tout à fait caractéristique, et on retrouve dans la plupart des monuments de la ville de Rennes, jusqu'à même très récemment, puisque chacun peut les voir, par exemple, au niveau des champs libres, au niveau de la base des champs libres, ben c'est constitué de ces schistes rouges. Donc ces schistes rouges, on va les retrouver dans les maisons les plus anciennes de Rennes, encore toujours dans le vieux Rennes, autour de la cathédrale, à l'arrière de la cathédrale, c'est pratiquement ce qui constitue l'essentiel de la cathédrale de Rennes, et dans plein de monuments extrêmement variés. Je pense par exemple au mur du cimetière de l'Est, au mur de la prison des femmes, enfin, on le retrouve de partout, et toute l'histoire de Rennes va être traversée par ce schiste rouge.
Donc vous parliez des roches actuelles, est-ce qu'il y a d'autres matériaux géologiques qui sont utilisés dans la construction de la ville de Rennes aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, ce que l'on fait, c'est que l'on utilise des matériaux qui sont des matériaux composites, qui ne sont plus des matériaux naturels, enfin très peu sont des matériaux naturels, ça peut arriver quand même qu'on utilise des matériaux naturels, mais je pense encore au champ libre. Les matériaux qui ont été utilisés par... ça y est, je ne me souviens plus de son nom. Christian de Port-Saint-Part, c'est ça ? Donc je ne me souviens plus de son nom. Bref, donc lui, ce qu'il a cherché à faire, c'est qu'il a voulu rappeler les matériaux de la ville de Rennes. Donc à la base, il a mis les schistes rouges, bien d'accord. Et puis ensuite, il a mis des plaquages d'agglomérés. Qui ont une teinte un petit peu rose et qui se veulent un rappel de ce que l'on connaît par exemple dans la région de Cap Fréhel ou d'Erquy. Ce sont toutes les falaises de ce grès rose qui est bien connu en Bretagne. Et en fait, ce grès rose qu'a utilisé Port-Saint-Part pour matérialiser les façades, aussi bien d'ailleurs des champs libres que des cinémas Gaumont, là, toutes les constructions nouvelles qui ont été faites. En fait, à Rennes, on en utilise assez peu de ces grès roses. On les a utilisés très récemment pour faire des pavés. Donc les grès roses, eh bien, vous les trouvez dans la construction des pavés, mais les pavés que l'on voit actuellement dans la ville de Rennes sont très récents en fait. Il y a eu plusieurs générations de pavés. Il suffit de s'en rendre compte pour aller dans la vieille ville de Rennes, donc la rue de la Psalette, dans laquelle on trouve des roches qui sont très très anciennes, avec des grès qui sont un petit peu blanchâtres, qui sont glissants. Il suffit de se promener d'ailleurs par jour de pluie pour s'en rendre compte, tellement ils sont glissants. Et donc c'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles ils ont été remplacés d'abord par des granites, puis ensuite par ces grès roses qui sont de factures récentes. En plus, ce qui est intéressant dans l'utilisation moderne des matériaux dans la ville de Rennes, c'est qu'il y a une volonté d'utiliser des matériaux de couleurs différentes pour matérialiser des zones de parking, des passages protégés. En fait, donc, on n'utilise pas de peinture ou quoi que ce soit, on va utiliser des matériaux qui proviennent des environs de Rennes pour matérialiser, donc, par exemple, un passage protégé à l'intérieur des pavés roses, eh bien, on va le délimiter par deux rangées de roches sombres, qui sont des roches sombres, souvent des roches voisines des basaltes que l'on exploite du côté d'Erquy, donc qui vont border le passage protégé, et le cœur du passage protégé va être matérialisé avec une autre roche qui souvent est une roche claire constituée par un granit, et donc on verra très très bien la matérialisation du passage protégé. De même pour les places de parking, eh bien, il y a certaines places de parking qui sont délimitées tout simplement avec ces roches sombres, donc assimilées à des basaltes, qui se distinguent très très bien donc du grès rose qui constitue les pavés.
Alors vous nous parlez justement beaucoup de toutes ces couleurs de roches. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus, en particulier sur les couleurs des roches? Quelles sont les tendances marquantes et pourquoi est-ce qu'elles sont des dites couleurs?
Alors, les couleurs dans les roches, c'est lié à de très nombreux processus qui peuvent être compliqués d'expliquer dans le détail. C'est des problèmes d'oxydation, c'est des problèmes d'érosion, c'est des problèmes de matériaux, d'où proviennent les matériaux, etc. Donc ça peut être assez complexe, la couleur en soi. Par contre, ce qui est très intéressant quand on se promène dans la ville de Rennes, c'est que justement, on distingue très très facilement les différentes roches grâce à leur couleur. C'est pas le cas partout dans toutes les villes de France, mais en tout cas à Rennes, c'est très très visible. On a déjà parlé des roches de Rennes, des schistes de Rennes, des schistes briovériens de Rennes, qui ont cette couleur gris bleuté tout à fait caractéristique, que l'on revoit par exemple de façon magnifique au niveau des portes mordelaises. Ça c'est tout à fait caractéristique. On a parlé des schistes rouges qui proviennent de la région du sud de Rennes et qui ont remplacé progressivement ces schistes briovériens qui étaient de mauvaise qualité. On a parlé donc des différents types de granit. En fait, quand on regarde attentivement les granites, eh bien, il y a granit et granit, et on s'en rend compte simplement avec leur couleur. Il y a des granites qui sont clairs mais légèrement grisâtres. C'est pas vraiment leur couleur qui permet de les différencier, mais quand on regarde en détail, on s'aperçoit que on a comme des espèces de grandes taches dans ces granites. Ces grandes taches sont en fait constituées de roches qui sont incluses dans ces granites, que les spécialistes appellent des xénolithes. Mais ces roches qui sont incluses dans ces granites grisâtres montrent que, par exemple, ces granites proviennent plutôt de la région de Fougères. Par opposition, vous rencontrez à Rennes d'autres granites qui sont un petit peu plus clairs, légèrement jaunâtres, avec, on voit des minéraux qui sont souvent brillants au soleil, avec un aspect un petit peu argenté. Ça, ce sont des mica blancs. Les géologues parlent de muscovite. Et là, c'est des matériaux qui peuvent être un petit peu plus déformés que les précédents. On ne retrouve pas ces taches sur le granit, et du coup on sait qu'ils proviennent de notre endroit, et qu'ils proviennent du sud de la Bretagne, du domaine de Questembert par exemple. Et ce qui est assez intéressant, c'est de se dire simplement, rien qu'avec cet aspect différent des granites, eh bien on sait, les géologues l'ont démontré, que ces granites, en fait, ils se forment dans des chaînes de montagnes. Et ces chaînes de montagnes sont complètement différentes. Le premier granit que je décrivais avec ses taches sombres vient de la région de Fougères et est associé à une chaîne de montagnes qui est très très ancienne, qui date autour de 600 millions d'années, que les spécialistes apprennent la chaîne cadomienne, très ancienne. Et puis les autres granites avec leurs aspects en paillettes argentées, leurs mica, qui viennent du sud de la Bretagne, enfin du massif armoricain plutôt, ce sont des granites qui se sont mis en place lors d'une autre chaîne de montagnes, mais beaucoup plus récente, 300 millions d'années, qui s'appelle la chaîne hercynienne. Donc vous voyez, même en se promenant dans la ville de Rennes, rien qu'en regardant les granites et leur aspect différent, eh bien, on sait qu'ils proviennent de deux chaînes de montagnes différentes. On peut faire un petit peu de géologie comme ça.
Pour avoir une idée plus visuelle de tous les granites et de toutes les roches dont nous parlons, vous pourrez toujours visiter l'exposition au champ libre jusqu'à la fin de l'année, ou encore vous pourrez aller visiter sur les heures de cours de l'Université de Rennes 1 la collection géologique dans le bâtiment numéro 5.
Nous allons maintenant faire une petite pause musicale avec Dinosaur Junior et le titre Almost Fair. Can I walk alone? Can I stick a toad on? Some think it's fine. How far should I go? Or will it be enough to feel it slipping through my mind? It's time I check the plan. Can I meet you? Understand, take my
cheat you of a feeling you deserve it again. Where can I go back? Feeling really time right after something that you said. Slap me hard instead. Seems like the best way to clear the cobwebs out my head. Time I check the plan. Can I meet you? Understand. But take my hand. Don't let me cheat you of a feeling you deserve. Should I show? Will it be enough to feel it till it's time to go? Time I check the plan. Can I meet you? Understand? Take my hand. Don't let me cheat you of a feeling. Deserve it again. Tell me where to go. Should I meet you? I don't know. I can't stand to make an issue of a feeling when you know you shouldn't go. I got a lot.
C'était donc Dinosaur Junior avec le titre Atmosphère. Revenons maintenant à Anouk Pierre en compagnie du professeur Jacques Bouffette.
La, 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 la.
Comment est-ce qu'on pourrait concilier aujourd'hui les pierres de construction locales et l'urbanisme moderne, par exemple la rénovation de la place de la gare ou la construction de la place Hoche ?
C'est effectivement une bonne question, et d'ailleurs c'est un sujet qui parfois est un sujet de discussion entre Rennais, parce que ces deux réalisations, à la place de la gare et à la place Hoche en particulier, font débat dans la mesure où, par exemple, beaucoup de gens trouvent ça trop minéral. Il y a effectivement que des roches qui constituent ces places. Alors ce qui est intéressant, évidemment, c'est de se dire, ben voilà, d'où proviennent-elles ? D'où proviennent-elles ? Vous avez certainement entendu parler que certaines de ces roches proviennent de Chine, alors qu'ils ont des aspects de granit. Ce ne sont pas forcément des granites au sens géologique du terme, peu importe, mais effectivement, ils proviennent de Chine et ils sont en compétition directe avec les granites bretons. Et il y a fallu trouver un consensus entre le prix que coûtent les granites chinois, intéressant, bon marché, et le fait quand même qu'on est à Rennes, capitale de la Bretagne, dans lequel on est à proximité, enfin on est à proximité de Louvigné-du-Désert, de Fougères, c'est-à-dire un bassin granitier extrêmement important et extrêmement dynamique. Donc on a trouvé un consensus pour utiliser du matériel breton en petite quantité, certes, et une majorité de granit, enfin de roches granitiques, on va dire, chinoises. Et ça se voit très très bien, je pense par exemple à la place de la gare. Si l'on regarde la place de la gare, on s'aperçoit qu'elle est constituée de roches qui ont un aspect légèrement verdâtre. Ça c'est les granites chinois. Et puis on voit les bordures de la place, plus quelques petites, des petits liserés à l'intérieur de la place, qui peuvent avoir un côté un petit peu artistique, mais qui sont beaucoup plus clairs. Et ça c'est les granites bretons. Donc là, on arrive à distinguer optiquement, assez facilement, granit breton et granit chinois. Mais dans certains cas, ça devient très difficile de distinguer le breton du chinois. Et c'est un sujet qui est actuellement un sujet de recherche, d'arriver à proposer une véritable carte d'identité d'un granit, c'est-à-dire avoir des caractéristiques qui soient tout à fait spécifiques au granit, voire même d'ailleurs à une carrière dans un bassin granitier, et de façon à ce qu'on puisse savoir d'où provient la roche qu'on est en train d'observer. C'est un travail qui a été fait en particulier par une des thésardes de Rennes 1, de géosciences, Claudine Malfilâtre, qui a soutenu cette année, et qui a proposé une mise au point d'une méthodologie d'identification des pierres naturelles de construction. Et donc, elle a travaillé en particulier avec les bassins granitiers bretons, pour pouvoir proposer une véritable carte d'identité, de façon à ce que chacun puisse reconnaître un granit breton quand c'est vraiment un granit breton. Une espèce d'AOC, en fait, de la pierre de construction. Alors, ce travail a été fait pour les granits bretons, il a été fait aussi pour certains calcaires et aussi certains grès. Mais d'abord sur les granits bretons. Ça, c'est quelque chose de très très important.
Et à terme, c'est un projet qui pourrait concerner tous les types de roches dans tous les pays ?
Alors, l'idée, effectivement, ça serait de faire ça. C'est un travail gigantesque. C'est un travail qui est très très difficile, parce que, mine de rien, il faut trouver des méthodes qui sont réalisables, assez simples, le moins coûteux possible, bien sûr, de façon à pouvoir être très discriminé, bien spécifiquement identifier le granit que l'on recherche. Et c'est un travail qui est très très complexe, et que Claudine continue à faire donc après sa thèse. Et donc elle est partie sur les granites, mais bien sûr, il faut élargir le spectre des roches, essayer d'être le plus en plus précis sur l'ensemble des roches. Et c'est un travail qui concerne évidemment le côté économique, puisque c'est une défense en fait de l'identité des granites, en l'occurrence des granites bretons, vis-à-vis de leurs concurrents directs en Europe ou dans le monde.
Si vous nous parliez un peu de la roche et des minéraux dans l'art, particulièrement on va penser à l'œuvre d'Aurélie Nemours, Les alignements du XXIe siècle dans le quartier de Beauregard.
Ah oui, donc ce projet, cette réalisation, pardon, d'Aurélie Nemours est quelque chose d'assez émouvant, puisqu'elle a voulu associer la grande tradition des alignements bretons avec le granit, et qu'elle a voulu breton. Et donc elle est allée chercher du granit breton de la Fougère. Et si vous avez l'occasion d'aller voir cette œuvre d'art avec l'œil du géologue, eh bien, vous allez vous rendre compte que ce granit de Fougère que je vous ai décrit avec ses petites taches, ces roches différentes, ces xénolithes que j'ai décrits précédemment, eh bien, en se promenant entre les alignements d'Aurélie Nemours, on a des exemples absolument merveilleux de ce granit de Fougère. C'est un des plus beaux affleurements du granit de Fougère, donc une utilisation volontaire de matériaux bretons pour faire une œuvre contemporaine bretonne.
Est-ce que vous auriez un petit mot à l'adresse des étudiants en géologie de Rennes 1 ou tout simplement des Rennais qui ne regarderaient pas assez les roches de leur ville ?
Tout le monde regarde les roches de sa ville. Tout le monde est entouré des roches. Le tout, c'est commencer à lire, de commencer à comprendre, de commencer à observer. Et donc tout le monde va finir par... tout le monde qui regarde un petit peu ça attentivement commence à lire et donc à comprendre. Donc ça, c'est un travail pour tout... c'est une joie pour tout un chacun. Simplement de se promener, d'observer, de se poser des questions et finalement de retrouver des réponses parce que finalement on a des roches très très simples dans la ville de Rennes. Mais on peut faire ce travail dans n'importe quelle ville du massif armoricain. On peut faire ça à Fougères, on peut faire ça à Vitré, on peut faire ça à Brest, on peut faire ça n'importe où. On va trouver à peu près la même technique. En ce qui concerne les étudiants qui se destinent aux sciences de la Terre, bon, ce dont on parle, c'est une partie tellement étroite du vaste éventail des sciences de la Terre. C'est une partie que certains étudiants ont choisie. Donc, je pensais à Claudine Malfilâtre, qui donc maintenant a trouvé un emploi pour continuer ses recherches sur l'identification des roches. Mais bien sûr, il y a tout le côté appliqué, géologie appliquée, concernant l'exploitation de ces pierres de construction qui font vivre une bonne partie du bassin de Fougères, par exemple. Et pas que exclusivement dans la région de Fougères. Bien sûr, on utilise encore beaucoup de matériaux de construction, de pierres de construction naturelles, et de plus en plus. Bon, ça, c'est un aspect des sciences de la Terre, mais bien sûr, c'est un aspect très très limité, très très étroit. Et bien sûr, il y a d'autres facettes à ce métier qui peuvent tenter beaucoup de gens.
Merci beaucoup, professeur. Merci de nous avoir reçus et merci de votre intervention à l'antenne. Au revoir.
Au revoir.
Il est déjà l'heure de nous quitter, mais restez à l'écoute de nos programmes sur Radio Campus Rennes 88.4 ou sur notre site internet radiocampusrennes.fr. À la semaine prochaine avec un nouveau regard sur notre belle ville pleine d'histoire. Clap the